Radio Kapi.
Oh Kapi.
Je suis Moussa Okonde pour le bulletin, pour le journal.
Henri Thomas Lokondo, député de la majorité présidentielle, exige la démission du Premier ministre Bruno Tshibala et pour cause de retard avec lequel le projet du budget 2018 a été déposé à l'Assemblée nationale. Publication hier par le BCNUDH du rapport mensuel des violations des droits de l'homme pour le mois d'octobre 2017 en RDC. Le bureau note une augmentation de 60% des violences en deux mois et appelle le gouvernement à traduire les présumés auteurs en justice. Au menu de la seconde partie de ce journal, le dossier sur les constructions érigées le long de la voie ferrée à Kananga, la revue de presse, le sport et l'invité. Bonjour à tous. Avant le développement de tous ces titres, notez d'abord qu'un accident de circulation a fait hier après-midi 6 morts et 5 blessés graves sur la route bypass entre les arrêts Makaya et Libaya dans la commune de Lemba ici à Kinshasa. Les blessés ont été acheminés à la clinique Pax de Rompoint-Gaba et aux cliniques universitaires selon le bourgmestre de la commune de Lemba, Toussaint Kaputu. Un taxi-bus de marque IAS est entré en collision avec un camion Ben de l'entreprise chinoise Craig. Le mauvais dépassement et l'excès de vitesse sont la cause de l'accident. Le conducteur du bus IAS serait parmi les personnes grièvement blessées. Le camion Ben a été incendié par la foule en colère. Venons-en à présent à cette démission du Premier ministre exigée dans les 72 heures par les députés nationaux Henri Thomas Lokondo. Bruno Tshibala a été interpellé hier mercredi à l'Assemblée nationale et les députés nationaux ont insisté sur cette démission malgré l'indulgence de la Chambre basse du Parlement sollicitée par le Premier ministre pour le retard avec lequel le projet du budget 2018 a été déposé à l'Assemblée nationale. Bruno Tshibala a avancé trois raisons justifiant ce retard, mais il n'a pas pu convaincre la plupart des députés nationaux, y compris Henri Thomas Lokondo, auteur de l'interpellation d'hier. Michel Kifindangoy nous en parle.
Dans ses éléments de réponse, le Premier ministre a justifié avoir déposé le budget en retard parce qu'il devait notamment attendre la publication du calendrier électoral par la CENI. Bruno Tshibala.
Le temps consacré par le gouvernement d'Union nationale à l'élaboration et à l'adoption du budget de l'État 2017 a réduit le temps qui aurait pu être consacré à l'élaboration et à l'adoption du budget 2018. La deuxième exigence concerne la nécessité d'évaluer l'impact des mesures économiques urgentes du gouvernement.
Ces raisons sont jugées non fondées par la majorité des députés, dont l'auteur de l'interpellation qui exige la démission du Premier ministre, Henri Thomas Lokondo.
Le processus de l'élaboration du budget est pratiquement géré par les administrations. Ce n'est pas un problème du Conseil des ministres. Moi, j'ai demandé à ceux qui puissent démissionner. Dans 72 heures, s'il ne le fait pas, alors on va déclencher la procédure parlementaire adéquate. Cela veut dire qu'on va faire une motion de censure.
Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, a donc annoncé la mise sur pied d'une commission de rédaction d'un rapport qui sera transmis au chef de l'État notamment.
Henri Thomas Lokondo, l'invité de la rédaction à suivre dans la seconde partie de cette édition. Toujours à l'Assemblée nationale, la plénière n'a pas pu traiter hier mercredi le deuxième point à l'ordre du jour, notamment l'examen du projet de loi des finances 2018, alors que le Premier ministre y était accompagné partout son gouvernement aussi pour défendre le budget. Dans sa motion d'ordre, les députés du G7 et Ekombe Mpechi s'est opposé à l'examen de ce budget avant le vote de la loi sur la reddition de comptes conformément à la Constitution. Une position soutenue par l'opposition et votée par la majorité des députés. Conséquence, l'examen du projet de loi des finances 2018 est renvoyé à une date ultérieure, ce en dépit du retard que cela a déjà enregistré. Autre nouvelle, les participants à la réunion des garants de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région de Grand Lac, à savoir les Nations Unies et l'Union africaine, la CIRGL et la SADC, ont demandé hier mercredi au gouvernement congolais de fournir les ressources financières et logistiques nécessaires pour permettre à la CENI de respecter le calendrier électoral. Une décision prise au cours de la réunion tenue hier mercredi à Addis Abeba en Éthiopie et publiée dans un communiqué officiel. Plus de détails avec Dona Madimba.
Dans ce communiqué, les participants demandent également aux autorités congolaises de respecter la liberté de réunion pacifique ainsi que l'accès équitable aux médias publics. Ils souhaitent aussi que le gouvernement de la RDC applique pleinement et efficacement les mesures de renforcement de confiance prévues dans l'accord du 31 décembre 2016. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO, Mamadou Sidikou, a participé à cette réunion qui fait suite au nouveau calendrier électoral de la RDC publié il y a 2 semaines par la Commission électorale nationale indépendante. Cette rencontre d'Addis Abeba fait également suite à la réunion du mécanisme régional de suivi, principal organe de contrôle de l'application de l'accord cadre qui s'est tenu à Brazzaville il y a 2 semaines. Le mécanisme se réunit une fois l'an au niveau des chefs d'État et de gouvernement pour examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre des engagements nationaux et régionaux pris au titre de l'accord cadre signé le 24 février 2013 à Addis Abeba en Éthiopie, d'abord par 11 pays ainsi que 4 institutions garantes que sont les Nations Unies, l'UA, la CIRGL et la SADC, pour mettre fin au cycle de conflits dans l'est de la RDC. Les 11 premiers pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba sont l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Soudan du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie. Le Kenya et le Soudan ont également adhéré à cet accord le 31 janvier 2014, devenant ainsi les 12e et 13e pays signataires de l'accord cadre.
Toujours en ce qui concerne la CENI, le groupe parlementaire UDPS et Alliés exige la démission de l'actuel rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Pierre Kalamba. Au cours d'un point de presse tenu hier lundi à Kinshasa, le président de ce groupe confirme qu'il retire la confiance à leurs collègues suite à la non-mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. En effet, cet accord prévoyait que la majorité présidentielle, l'opposition et la société civile, d'où sont issus les membres actuels de la CENI, et s'ils les désiraient le remplacer, qui était libre de le faire dans le délai de 14 jours à dater de la signature de l'accord. Mais pourquoi la question résurgit-elle maintenant, soit près d'une année après? Dr Léon Moubikaï, président du groupe parlementaire UDPS et Alliés, explique au micro de Richard Junior Kamonga.
Comme vous le savez tous, Kalamba a été désigné par le groupe parlementaire UDPS et Alliés. Il est parti nous représenter à la CENI. Jean-Marc Kabund, qui est le secrétaire général de l'UDPS, avait envoyé une demande de démission à M. Kalamba. Cette demande de départ de M. Kalamba, qui n'est qu'une demande du parti et non des individus. Le groupe aussi a retiré sa confiance en nous comme le parti et nous estimons qu'il doit partir. Et il est difficile de comprendre que maintenant, il cherche des occasions fallacieuses pour avancer des raisons qui ne tiennent pas. Quand Kalamba entre à la CENI, il déclare ce que j'ai dit. Je viens de couper les cordons ombilicales avec les partis. Si les gens cherchent à personnifier la situation, je ne sais pas si les gens raisonnent. Je suis avec Jean-Pierre plus de 10 ans. C'est mon frère. Ici, nous sommes en train de parler de la politique, du parti politique.
En réaction, 22 députés sur les 52 que compte ce groupe parlementaire dénoncent et protestent contre cette démarche qu'ils qualifient d'une simple manipulation politicienne de mauvais goût. On écoute l'un des signataires de la contestation, les députés nationaux de l'UDPS, élu de Dibaya, Martin Akabuya, également au micro de Richard Junior Kamonga.
Ils ont pris l'initiative d'écrire à la CENI sans nous consulter au préalable. Nous sommes un groupe composé de 52 députés nationaux, élus UDPS ainsi que des alliés. Quand il y a une telle initiative à prendre, nous pensons qu'il est toujours indiqué de se concerter avant de s'engager. Mais malheureusement, les collègues précités, pour se faire une petite conscience, ils ont de façon unilatérale contacté la CENI. C'est comme ça que nous avons dénoncé leur démarche. Alors la démarche, elle est fondée sur notre engagement à ne pas perturber le processus en cours. Kalamba ne partira pas. Est-ce que nous sommes, nous, députés nationaux, en contact avec l'UDPS? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. Si nous sommes en contact, est-ce que nous payons nos cotisations? Mais nous n'avons jamais payé de cotisations. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte de rupture entre nous. C'est question de commencer par régler toutes ces questions avant d'aboutir à la question de Kalamba. Voilà.
Notez aussi, toujours dans ce chapitre, c'est rapportant au processus électoral. Sur le terrain, des agents électoraux du territoire de Dibaya au Kasaï central disent n'avoir pas été payés pour le mois d'octobre dernier. Ils ont exprimé leur mécontentement mardi à Radio Okapi. Blaise Ndongala pour plus de détails.
Ils sont plus de 700 ces agents de la Commission électorale nationale indépendante qui s'indignent de cette situation. Ils disent mener une vie difficile dans cette partie du pays pour n'avoir pas été payés.
l'exclusion temporaire de la CENI du territoire de Dibaya déplore le non-déploiement de leur salaire pour le premier mois alors que les autres territoires sont déjà servis il y a une semaine. Nous sommes sur terrain pour la supervision des opérations en train de nous endetter à la population. Nous demandons aux différentes autorités de s'impliquer dans les dossiers pour éviter le pire.
De son côté, le secrétaire exécutif provincial de la CENI au Kassai Central attribue ses retards de paiement au déficit dans l'enveloppe de paye du mois d'octobre de ses agents commis à Dibaya. Joseph Mputu Ilunga.
J'ai reçu de l'argent pour la province du Kassai Central. Dans cette masse d'argent, il restait une partie qui ne pouvait pas couvrir pour tous les territoires de Dibaya. La hiérarchie est en train de travailler là-dessus pour envoyer le reste d'argent afin de me permettre d'ajouter à la partie que j'ai et à la banque pour pouvoir opérer cette paye-là.
Ces agents électoraux de Dibaya indiquent n'avoir pas également touché les frais alloués à leur déploiement. De Kananga, Blaise Ndongala Mayanda, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la publication hier par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme du rapport mensuel des violations des droits de l'homme pour le mois d'octobre 2017 en RDC. Le Bureau note une nouvelle augmentation des violations et appelle le gouvernement à traduire les présumés auteurs en justice. Les principales tendances de ce document avec Jean-Pierre Elali.
Le bureau conjoint note une nouvelle hausse des cas de violation en octobre 2017. 704 cas documentés, soit une augmentation de 60% en deux mois. Les principaux auteurs de ces violations sont des agents étatiques, c'est-à-dire des militaires des FRDC, des éléments de la police responsables de 63% des violations, dont l'exécution extrajudiciaire de 56 personnes. Les groupes armés sont responsables de 162 atteintes aux droits humains avec exécution sommaire ayant entraîné la mort de 135 personnes. Les membres d'organisations de la société civile sont le plus visés par ces violations. Autre tendance, quasiment toutes les provinces du pays sont concernées par ces violations, avec à la clé une inquiétante propagation des activités de groupes armés dans les provinces considérées comme n'étant pas habituellement affectées par les conflits comme le Maniema et le Haut-Katanga. Dans les territoires de Puito, par exemple, une mission d'enquête du bureau a révélé la mort de 19 personnes lors des affrontements entre Bantous et Pygmées. Enfin, lutte contre l'impunité, au moins 5 militaires, 2 policiers et 3 membres des groupes armés ont été condamnés.
Dans le même chapitre, Nord Kivu, la société civile du groupement Dikobo en territoire de Walikale dénonce les violations des droits humains perpétrées indistinctement par les groupes armés et des éléments FRDC contre les civils dans ce groupement. Cette organisation citoyenne demande aux autorités des mesures urgentes pour mettre fin aux menaces qui subissent au quotidien les populations dans cette zone. Bernardine Diambou.
Selon la société civile, c'est depuis plus de 2 semaines maintenant que les populations du groupement Ikobo en général et celles des Rusamambo sont tracassées. En effet, à Rusamambo et Murunga, les éléments FRDC auraient érigé plusieurs barrières sur le chemin qui mène vers le champ. Pour passer ces barrières, les paysans seraient sommés de payer 500 francs congolais par jour. En plus de cela, ils doivent donner une partie de leur récolte aux militaires, affirme notre source. Les éléments FRDC aussi sont accusés des travaux forcés, torture et d'arrestation arbitraire. La société civile du groupement condamne ces actes et demande aux autorités militaires de prendre des mesures pour y mettre fin. Contacté, le porte-parole de Sokola 2 indique que ces barrières sont installées provisoirement dans cette zone opérationnelle. Cela permet aux militaires de mettre la main sur certains inciviques. Mais le major Njike Kayiko précise que si ces allégations s'avèrent fondées, ces militaires indélicats devront répondre de leurs actes. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
Direction le nord-ouest du pays, avec une population autochtone estimée à 5447 habitants, le groupement de Pasagba Inke, à une quarantaine de kilomètres de la ville de Gbadolité, accueille depuis juin 2013 des milliers de réfugiés centrafricains fuyant la guerre dans leur pays. Le HCR a initié un certain nombre d'activités d'autonomisation entre autochtones et réfugiés pour promouvoir une cohabitation pacifique dans les champs communautaires. Honoré Missenga Kalala, qui est sur place, nous fait le point de cette réalité.
Le chef du groupement JP Kitabwa est le premier à témoigner de la cohabitation pacifique entre ses habitants et les réfugiés centrafricains. Président du comité mixte de cohabitation lui-même, le chef met en exergue l'hospitalité de son entité.
Vraiment, je félicite d'abord la population d'avoir un peu être ensemble, souvent avec nos frères réfugiés, même partout à l'école. Quand vous allez trouver les élèves réfugiés, les élèves autochtones, même à l'église.
Cette cohabitation pacifique est cependant mise à dure épreuve à cause des besoins alimentaires pour les deux communautés.
La population vit un peu très difficilement, surtout à cause de la nourriture. Et il y a la quantité peuplée. C'est que souvent, je me lamente de chez les paternels d'avoir un peu appuyé la agriculture.
L'une des solutions durables initiées par le HCR avec l'appui de ses partenaires se trouve dans les champs communautaires et les premiers résultats sont satisfaisants. C'est Dou Chimpompo, superviseur en charge de l'agriculture à l'ADES, partenaire du HCR.
Ici, nous sommes dans le site communautaire. C'est d'abord un site qui abrite 537 personnes. Nous avions appuyé nos bénéficiaires à la saison A avec les semences d'arachide. Et à la saison B, on a renforcé l'activité en les appuyant avec les semences de niébé et de soja.
Au total, sur 270 hectares mis à la disposition des deux communautés autochtones et réfugiées, 81 sont exploités à ce jour et près de 4000 tonnes d'arachides ont déjà été récoltées à la saison A. De Badolité, Honoré Missenga Kalala, Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
Au Zimbabwe, après une journée entière d'attente, l'ex-vice-président a effectué un retour discret. Ce n'est qu'en fin de journée qu'il est apparu en public. Ses partisans l'attendaient à l'aéroport hier mercredi midi, mais les militaires les ont évacués, leur demandant de retourner dans le centre-ville au quartier général du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Le nouvel homme fort du Zimbabwe est arrivé quelques heures plus tard, s'adressant à la foule entourée d'une dizaine de gardes du corps, certains positionnés devant lui, signe d'une inquiétude toujours vive quant à sa sécurité. Emmerson Mnangagwa avait fui il y a deux semaines, juste après avoir été limogé par Robert Mugabe, disant craindre pour sa vie.